Salut à tous et bienvenue dans les guidons de l'info. Vous êtes revenus pour cette seconde partie de l'émission. Alors, comme promis, l'interview de Mathieu. Mathieu, es-tu là? Tu nous entends?
Je suis là.
Salut Mathieu. Alors d'abord, j'aimerais te dire que je suis vraiment très très contente qu'on puisse t'entendre dans cette émission parce que ça fait pas mal de temps qu'on parle de toi, qu'on parle de tes bouquins, Danger public, Rouler jeunesse, Délivre-moi du mal. Et donc aujourd'hui, on a envie d'en savoir un petit peu plus, même voire beaucoup plus. Et on aimerait commencer en parlant un petit peu de toi, de qui tu es. Tu es motard d'abord. La moto t'est tombée dedans quand t'étais petit ou pas?
Oui. En fait, pour moi, la moto, c'est d'abord mon vélo quand j'avais 10 ans. Ah. Ensuite, c'était la mobylette. Ensuite, c'était le scooter et c'était la moto plus tard. Donc, j'ai un parcours de motard parisien. Enfin, c'est d'abord un deux roues, quoi. C'est d'abord le deux roues, la liberté du deux roues, la moto, pour moi. Voilà, mais j'ai des souvenirs d'adolescent sur mon 103 Peugeot, sillonné Paris comme un fou. Et puis ensuite, c'est devenu un petit peu autre chose, mais un parcours assez classique de motard.
D'accord. Alors, il y a une chose que j'ai oubliée, parce que bon, on t'a appelé au téléphone, donc tu es loin, tu n'as peut-être pas écouté le début de l'émission. J'ai avec moi quand même une petite équipe que j'aimerais te présenter et avec qui on va pouvoir discuter. À côté de moi, il y a The Pat qui a dévoré ton dernier ouvrage.
Ouais, salut Mathieu.
Et en face de moi, il y a Dao, un petit nouveau dans le monde de la moto aussi, et qui est aussi en train de faire connaissance un petit peu avec ce que tu fais.
D'accord. Salut Mathieu.
Bonsoir.
Mais dis-moi Mathieu, t'es motard parisien, donc bon, bah, comme moi en fait, hein, je suis toulousain depuis peu, qui est plongé dedans depuis qu'il est tout petit, donc comme moi en fait. Mm-hmm. Et en plus tu parles dans Rouler jeunesse d'un prêtre qui était branché, tu sais, le prêtre chez Loubargue, Gilbert, chez qui j'ai longtemps pratiqué l'art de rouler des deux feuilles.
Oui.
Enfin bon, peu importe. Et maintenant, tu roules sur quoi?
Alors, vous allez rire, je roule en métro depuis 10 jours, puisque ma moto, qui était un vieux Dominator de 92, m'a lâché juste avant le mondial du deux roues.
Aïe.
Et paradoxalement, depuis que j'écris sur la moto, j'ai plus les moyens de me payer les engins de mes rêves.
Oh.
Alors bon.
C'est très symbolique. À la fin de ma trilogie moutarde, mon Dominator a rendu l'âme. Voilà, je suis assez attaché au symbole. Donc je me pose des questions. Soit je m'achète une voiture et je fais une trilogie sur la voiture. Soit je m'achète une moto.
Eh, une moto, ça coûte moins cher quand même. Hein.
Oui, non, voilà, mais pour parler concrètement, la littérature étant ce qu'elle est, c'est hyper difficile, ne serait-ce que de me payer un nouvel engin.
Ouais, tu peux quand même t'acheter un 101, non? Ou un 103?
Mais j'en cherche.
Un Solex.
Et le Solex, oui, a aussi beaucoup de charme. Voilà, non, je travaille sur le dossier, quoi, mais il faut que je me trouve un truc pas cher sur Paris. Et sachant que je ne suis pas mécano pour un sou, il faudrait que ce soit prêt à rouler. Mais voilà, mais sinon j'ai toujours roulé, moi je suis très grand, je suis 1,90, donc je suis obligé d'avoir des trails. Et puis je cherche des motos efficaces sur Paris. Donc le Dominator était pas mal, hein, il me correspondait bien.
Ouais.
En plus j'ai toujours aimé ce nom.
Dominator, oui.
Un des plus beaux noms de moto qui existe.
Ouais, après il faut s'habiller en cuir et trouver un masque en cuir de la bonne taille, quoi.
Voilà.
Ouvrez l'œil l'automobiliste. Ouvrez l'œil automobiliste, l'auteur n'aime pas qu'on le double.
Ouais, ouais.
C'est vrai ça?
Ah bah c'est un des drames du motard, c'est quand une fois que t'as goûté à la moto, tu ne supportes plus de revenir à la voiture. C'est pas possible, surtout à Paris, quoi. Donc le motard parisien est habitué à être. Enfin, c'est pas seulement le parisien, on est le premier au feu, quoi.
Ouais.
Il arrive, il n'y a pas à chier, il faut être le premier au feu. Chaque fois que je reprends une voiture, je ne supporte pas de ne pas être le premier au feu, ce qui me pose des problèmes.
Ah oui, c'est vrai que c'est très dur de repasser devant après, quoi.
Ouais.
Surtout quand il se traîne.
Bah, l'objectif étant quand même de pouvoir être fluide dans le trafic. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la fluidité du trafic parisien. On sait ce qu'il en est. Tu as un parcours professionnel qui est quand même relativement riche. Mais qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à l'écriture? Tes activités antérieures ou ça te chatouille depuis longtemps?
Oh, ça me me chatouille depuis longtemps. Oui. Mais on peut, je pense qu'on peut pas écrire un livre sans avoir une envie profonde. De toute manière, il faut une dose de... Enfin, c'est de l'acharnement aussi, un livre. Hein, puisque moi, je réécris 20 ou 30 fois avant d'arriver au résultat que vous connaissez. Donc il faut quelque chose qui vient de l'intérieur, oui, qui vous pousse à le faire. Donc moi, ça me chatouillait depuis une dizaine d'années. Par contre, j'étais pas un gamin qui écrivait beaucoup. Ça me gonflait même plutôt. C'est venu assez tardivement, vers 20 ans. Voilà, mais j'ai mis 10 ans avant d'oser me lancer.
Mais l'imaginaire était là déjà.
Probablement.
Même si l'écriture ne venait pas.
Ouais, mais c'est marrant parce que tu sors d'une école de commerce, c'est ça?
Oui.
C'est pas un tracé très classique, on va dire, pour arriver à l'écriture.
Non. Ben, si tu veux, aujourd'hui, récemment, comme je dois gagner ma croûte, je me suis fait recruter comme lecteur de scénario dans une boîte de prod. Et c'est la première fois que je vends tout sauf mon école de commerce.
Ah, voilà.
Et j'étais assez content. C'est-à-dire que j'ai mis 10 ans pour gommer l'école de commerce.
C'est vrai que quand on lit le petit texte là qui raconte un peu ton parcours,
ouais.
Consultant, responsable marketing, globetrotter,
ouais.
Éditeur,
ouais.
Il paraît que tu as même fait des startups.
Oui.
C'est vrai que ça fait assez atypique quand même pour finir dans l'écriture.
Commencer.
Pour s'en libérer, en fait. C'est pour se libérer de cette école de commerce et de tout ce que ça véhicule en même temps, j'imagine.
Oui, ne jouons pas sur les mots. Hein.
Absolument. Ouais. En même temps, je ne renie pas l'école de commerce parce que...
Non, c'est une bonne école.
D'abord, je m'y suis fait de très très bons amis qui sont pas tous... Dans une école de commerce, il faut savoir que la moitié des gens n'ont rien à y faire.
Ouais, comme ailleurs.
Il y a un problème d'orientation en France, qui est majeur. Et aujourd'hui, j'ai des potes qui sont... Il y en a un qui est clavier dans un groupe qui commence à marcher. D'autres qui sont pas mal dans la musique, dans le théâtre. Il y a beaucoup de revirements, quoi. Donc, la moitié des gens qui sont dans une école de commerce n'ont rien à y foutre. Donc j'en faisais partie. Simplement, à partir du moment où tu es embarqué sur une voie...
Ouais, c'est cuit, il faut aller au bout.
Avec des pressions... des pressions sociales, familiales, ou même juste financières, parce que quand tu commences à t'acheter un appart, t'emprunte, ou tu te maries, tu fais des enfants, bah, il faut ensuite faire vivre tout ça. Donc c'était pas simple, et j'ai mis 10 ans, moi, à m'en libérer. Voilà, donc aujourd'hui, je me vends sans mon école de commerce, mais sans la renier, parce que, voilà, elle me sert aujourd'hui quand je dois...
Ouais, mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, tu nous dis que t'as plein de potes qui sont maintenant dans la musique, en fait, à l'opposé de ce que l'école de commerce, quelque part, représente.
Ouais.
Donc c'est plutôt une guérison, en fait, c'est une thérapie. Si vous voulez que vos enfants deviennent un jour des anarchistes ou des libertaires et tout, envoyez-les dans des grandes écoles de commerce. Au moins, ils seront guéris.
Oui, avec le risque que ça leur plaise aussi.
Ah merde, j'avais pas pensé à ça, t'as raison.
Et oui, il y a quand même l'autre moitié de ceux qui sont en école qui finissent dans la même lignée, quoi.
Donc on sait jamais. Mais en tout cas, voilà, on revient de l'école de commerce. Bon, puis elle n'est pas aussi caricaturale qu'on peut le voir dans certains films.
Alors t'es arrivé à l'écriture. Moi, ce qui me chatouille, ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi le choix du policier dans ton premier livre.
Alors, il y a deux explications très concrètes. Première explication, moi j'ai fait une école de commerce, je me suis surtout réalisé dans l'édition d'un guide de la ville.
Mm-hmm.
Une tradition des écoles de commerce, c'était à Lyon. Je me suis occupé d'un guide qui s'appelait Le Petit Paumé, qui était l'ancêtre des city guides français, qui a inspiré tous les autres guides suivants. Et voilà, il y avait une thématique chaque année à développer. Il se trouve que cette année-là, avec un autre pote devenu auteur de polar, on a développé la thématique du polar. Donc pour la première fois, on s'est intéressé au polar vraiment à ce moment-là. Et c'est vrai que 10 ans plus tard, on s'est retrouvés tous les deux à écrire des polars. Parce que d'abord, c'était la lecture, enfin, notre lecture principale. Ensuite, ça me paraissait naturel d'écrire ça. Et par ailleurs, il me semblait, je ne suis pas certain de ce que je dis, mais il me semblait que c'était quand même plus simple pour un premier livre, pour un premier essai, de mettre un meurtre au départ et de mettre un personnage dont le rôle est d'enquêter, donc d'avancer dans l'histoire.
Mmh.
Ça me paraissait juste plus facile. Bon, au final, je suis pas sûr que ça soit plus facile, Mais voilà, au départ, mon premier réflexe, ça a été ça. D'écrire un polar, parce que c'était mon univers.
Voilà, oui.
Plus facile, tu dis, mais ça a été, je crois, un investissement énorme. Tu as dû te plonger un petit peu dans les différents mondes que tu décris dans ces livres.
Oui. Le premier, c'était assez autobiographique. Enfin, c'est le motard parisien, je connais un peu. Bon, le stunt, je suis allé voir comment ça se passait. La police, j'ai une bonne copine qui est là-dedans, qui m'a bien rencardé.
Ah, ça aide.
Voilà.
Voilà pourquoi il y a des détails comme ça, croustillants de la police.
Oui. Bah oui. Non, donc, cela étant, il faut pas non plus plonger. Je pense qu'il y a moyen de, parfois, en deux heures de discussion avec quelqu'un, de choper les trois détails qui vont bien, et puis tu les remets. Et ça donne peut-être l'illusion que j'y suis allé. Donc oui, je me suis vraiment documenté, j'ai passé du temps, ça a été un investissement important, mais j'ai pas non plus été traîné toutes les semaines, tous les jours, dans tous les endroits qui allaient bien. Par contre, pour le deuxième, c'est vrai que tous les endroits dont je parle, j'y suis allé. À travers, pendant la promotion de Danger Public, c'est vrai que je suis allé aux 24 heures du Mans, au groupe Moto Légende, tous ces événements, et que je parle d'endroits où effectivement je suis allé. Et pour le troisième aussi, c'est vrai que quand je parle du coursier, j'ai été faire le métier pendant un mois. C'était le début de mon livre, j'ai commencé par refaire le métier, revenir aux sources, et souffrir un peu sur la bécane.
Oui, ça a l'air d'être une grande souffrance. C'est vrai que c'est un métier que j'imagine, mais que je n'ai pas connu. Mais c'est absolument extraordinaire la façon dont tu le décris et la dynamique que tu mets dans ce livre. J'ai lu les trois, pas les uns après les autres. À chaque fois qu'ils sont sortis, j'ai tout de suite lu les uns après les autres. Là, je vais reprendre les deux premiers. Et j'ai senti dans ta trilogie comme une progression, comme quelque chose qui devenait plus mature sur le troisième. Le troisième, j'ai accroché dès la première page et il y a une dynamique qu'il n'y avait pas sur les deux premiers. T'expliques ça comment ?
Si tu prends les deux premiers, ils ont clairement des défauts que moi j'ai complètement identifiés. Et c'est marrant parce que c'est des défauts différents. Ils ont des qualités et des défauts, mais les défauts, je les connais bien. Le premier, c'est lié à la façon dont je les ai écrits. C'est-à-dire que le premier, j'apprenais. Le deuxième est vachement difficile à faire, puisque tu es dans... Le premier, tu le fais à l'énergie, tu le fais en te demandant si tu vas arriver au bout, tu sais pas. Ensuite, une fois que tu l'as fini, tu te demandes si tu vas trouver un éditeur. Donc c'est tout à l'énergie et tu as quelque chose à te prouver. Bon, une fois qu'il est sorti, donc tu es content. Puis tu dis, je vais faire un deuxième. Bon. Là, au début, tu penses que c'est un peu facile. Tu l'as fait une fois, donc tu vas le refaire. Sauf que non, c'est pas du tout comme ça. Il faut tout reprendre de zéro. Il faut redevenir humble et puis se remettre au boulot et recommencer 20 fois le travail. Donc, on dit qu'on va y arriver du premier coup. Et ben non. Donc, on va un peu de déception en déception sur le deuxième. Et l'écriture du deuxième a été très douloureuse. Par contre, le troisième a été plus simple. Paradoxalement. Mais donc je pense qu'effectivement je me suis quand même amélioré.
Ça reste un métier. Je les ai lus à l'envers, tes bouquins, Mathieu. J'ai commencé, parce que moi, je fais pas comme tout le monde, je roule en Guzzi, donc ça s'explique. Donc j'ai commencé par le troisième, je les ai fait à l'envers, et c'est évident, le troisième, attends, je trouve que tu as trouvé une vraie puissance d'écrivain, quoi. Il y a le truc, ça commence au début, t'as qu'une envie, c'est de finir ce bouquin pour savoir qu'est-ce qui se passe, parce que ça te tire au truc, quoi. C'est... Très bon esprit.
Je suis content que vous le perceviez ainsi, parce que c'était le but, mais on ne sait jamais si ça va marcher.
La mayonnaise, elle a pris, moi je trouve que c'est bien, vraiment, bravo.
Merci.
Apparemment, tu as des fans là, ça ne fait aucun doute.
En plus, j'ai pratiqué, moi, quand j'étais étudiant, pour me payer mes études, tu vois, j'avais le cul, la selle dans le cul du matin au soir. Pendant 5 piges, j'ai été coursier, donc c'est vraiment un truc qui m'a touché en plus personnellement, en plus,
ouais.
Tu vois.
Ouais, mais c'est un. Enfin, moi, je voulais un anti-héros. Le coursier se prêtait très bien. Ça, enfin, c'était d'ailleurs ma première idée de. Quand j'ai commencé à travailler sur la moto, avant Danger Public, ma première histoire était une histoire de coursier, et je me suis rendu compte que j'étais pas encore. enfin, c'était vachement dur à traiter. Et j'ai renoncé parce que c'était trop dur. Et à ce moment-là, l'idée de danger public m'est venue. Donc c'était le livre sur les coursiers était en réalité le premier que je voulais écrire. Parce que j'étais très attaché à ce boulot, à cette communauté de l'ombre, enfin qui n'est pas de l'ombre, mais qui est anonyme, qui est dispersée dans la ville, et qui fait un travail qui n'est pas reconnu. Quoi. J'aime bien les causes perdues. Les petites gens et les causes perdues. C'est ce qui me perdra d'ailleurs. Mais...
oui, bon, c'est sûr, mais bon.
Et par ailleurs, c'est aussi un métier qui est vachement, enfin, qui a vachement souffert de la libéralisation de notre monde.
Ouais, et puis Internet, et puis les fax et tout, c'est clair que...
Et le téléphone portable qui joue un rôle énorme.
Oui, moi je suis vieux, à l'époque où j'étais coursier, le portable c'était pas encore...
Et oui, donc t'allais aux cabines, t'allais dans les bars...
Ouais, j'avais le talkie-walkie.
Ah, et le talkie, oui.
Ouais.
Sachant que le système le plus... Ça c'est l'anecdote, c'est mon père qui a 65 ans qui m'a raconté ça, qui travaillait au début de sa carrière dans les ministères, qui m'a raconté le système le plus performant de course qui ait jamais existé. À une époque où tous les ministères avaient leur propre coursier attitré. Chaque coursier devant faire le tour du ministère dans le désordre. Et les coursiers des différents ministères se sont un jour réunis en disant « Bon, les mecs, c'est bien joli tout ça, mais il y en a marre de rouler toute la journée. » Ils ont identifié un bar central qui avait un large comptoir. Ils ont mis des casiers sur le comptoir. Ils se retrouvaient tous les jours à 10h avec tous les plis du ministère. Chacun arrivait à tour de rôle, mettait les plis sur le bar. Ils buvaient des coups jusqu'à 16h. Et chacun, à 16h, repartait ivre-mort avec tous les plis pour son ministère.
Oui.
Et jamais un pli n'est arrivé en retard, évidemment.
Et ça s'appelle la convivialité motarde, mais en plus très organisée. Et ça, c'est bien.
Et sinon, pourquoi cette maison d'édition ? Ça m'intrigue, parce que ils sont plutôt connus pour faire des trucs celtiques. Enfin, bon, tu
ils
vois.
Ils ont commencé dans le... Enfin, sur la collection de polars, c'est un peu particulier. Ils ont commencé dans la dans les polars bretons, bretonnisants.
Ouais.
Et à un moment donné, l'éditeur a eu envie d'ouvrir... et je suis arrivé à ce moment-là. Mais c'est un pur hasard, parce que en fait, j'avais trouvé deux éditeurs pour le premier, mais j'ai pris le premier, quoi, tout simplement. Et j'étais déjà tellement contente de trouver un éditeur que ça s'est fait comme ça. Et par ailleurs, à chaque fois que je lui ai proposé une idée loufoque pour la suite, il m'a dit oui. Donc,
ouais. On marque quand on est voisin du QGDF, on est forcément un peu loufoque, non? Parce que dans le genre loufoque, là,
QGDF, j'y travaille. ouais, non, mais on s'entend bien avec Stéphane et puis toute sa bande, c'est un peu rigolo.
Ah ouais, ils sont super.
Ouais, et puis, ils ont un projet de BD là en ce moment. Je vais peut-être essayer d'aller travailler dessus. Je sais pas. Stéphane m'en a pas trop parlé. Je sais pas si t'en as entendu parler de leur projet de BD.
Non, du tout. Moi, ça fait un an que je suis toulousain, alors j'ai plus trop de contacts. J'ai Stéphane, je l'ai vu il y a pas très longtemps. J'ai eu Vince, je sais pas si tu connais le... Tu vois qui c'est.
Je vois très bien. Ouais, il est voisin, Vince.
Eh oui. Mais là, il a eu des petits soucis. J'en ai parlé à l'émission la dernière fois, le jour où il a eu l'accident. Il y a eu un accident de scooter, c'est vraiment trop bête. Un piéton qui est sorti avec le téléphone à l'oreille, un grand classique, qui regardait de l'autre côté avec son téléphone. Et
voilà, je savais bien que ça allait partir en discussion de café avec ce patron. Et pour revenir à nos bouquins quand même, aux choses sérieuses, il y a une petite phrase qui me chagrine dans ton dernier bouquin, c'est l'auteur achève sa trilogie motarde en si bonne voie, je trouve que c'est dommage. Je l'ai laissé sans voix.
Oui, non, c'est certes dommage, mais je crois que pour ma santé mentale, il est indispensable que j'arrête. Mais encore le mondial m'a fait réfléchir, parce que c'est vrai que j'ai plein de lecteurs qui me demandent la suite et tout, mais premièrement il y a un point de vue économique de mon côté, c'est que je suis dans une galère pas possible parce que je ne gagne pas ma vie avec ça et que je ne sais pas faire rapidement, donc je suis obligé de prendre un an pour écrire un livre, que j'ai beaucoup de mal à avoir d'autres activités à côté quand j'écris, et par ailleurs la moto en tant que sujet me gave un peu, je dois le reconnaître. Parce que l'écriture étant douloureuse, on a tendance à y associer les sujets sur lesquels on écrit. Donc je tiens à garder un rapport sain et cordial avec la moto. Donc pour ça, il faut que j'arrête d'écrire là-dessus.
Mince, alors j'allais te demander, parce que dans ton premier livre,
oui.
je le lis un peu, si tu veux, comme une succession de scénarios de films. En fait, à chaque chapitre, à chaque scène différente, je visualise un peu un film. Et j'allais te demander si t'avais pas, l'intention un jour de faire un petit scénario sur la moto pour le cinéma ou la télé.
Alors, effectivement, je pense que j'ai une culture beaucoup plus cinématographique que littéraire et que j'écris mes livres en voyant des scènes. Donc j'essaie de les écrire et de la façon la plus vivante possible. Donc c'est vrai que beaucoup de gens me disent que ça les fait penser, à un scénario. Donc ayant écrit ces livres, moi, je me suis dit, bah, au fond, est-ce que je peux pas essayer de les vendre à un producteur de cinéma ? J'ai eu quelques contacts. Au final, personne n'a rien acheté, personne ne s'est déclaré intéressé. Il y a, je pense, deux raisons à cela. D'abord, on est complètement dépendant du désir d'un réalisateur et ou d'un producteur. Mm-hmm. Donc il faut que ça fasse, faut que ça donne envie à quelqu'un de faire un film. Alors, est-ce que je pourrais écrire moi un scénario sur la moto ? La réponse est non.
Il faudrait quelque chose au bout, quand même, une carotte ou quelque chose.
Non, mais parce que mes deux premiers livres, en l'occurrence, j'ai longtemps pensé qu'ils pouvaient faire des scénarios. Mm-hmm. Et un jour, quelqu'un m'a donné une explication fulgurante en me disant pourquoi mes livres ne deviendraient jamais des scénarios de films. Parce qu'ils sont trop moto.
Ah, c'est dommage, parce qu'on parlait il n'y a pas longtemps dans l'émission des films sur la moto, ou des films dans lesquels la moto était très présente. Et avec Motostra aussi, on a beaucoup parlé de ça, mais ça nous manque
tellement peu de gens, en fait.
Aujourd'hui,
c'est ça le problème. Ouais.
Le producteur de cinéma, comment il raisonne ? Il raisonne en termes de marché.
Tout à fait.
Donc il y a certes 1,5 million de motards en France, mais ça fait juste 58,5 millions de personnes qui sont non motardes.
Ah ouais.
Et c'est les 58,5 millions qui vont l'intéresser.
Absolument.
Donc il va se dire, ouais, si je fais un truc pour 1,5 million de personnes, allez, je vais en toucher quoi, 20%, 10%, c'est pas assez.
Mais tu vas quand même continuer à écrire. Il n'y a pas que la moto dans la vie.
Alors, oui, non. Donc, moi, j'ai deux projets, parce que je voudrais, en même temps, j'aimerais bien lire des polars de motards aussi. Donc, je me déclare prêt à encadrer tous les auteurs qui se présenteront à moi pour les aider à accoucher d'un bouquin, que je peux éventuellement coéditer avec mon éditeur, peut-être avec Motomag, peut-être avec d'autres regroupements, pourquoi pas avec le QGDF. Enfin, c'est complètement ouvert. Et moi je compte écrire sur autre chose et peut-être des scénarios mais qui n'auront rien à voir avec la moto. Peut-être des livres aussi, enfin, il faut que je réfléchisse à tout ça, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir parce que j'ai fini le troisième à l'arrache complète cet été et que j'ai pas eu le temps de me poser depuis.
Ah, tu pourras toujours mettre un petit Dominator dans un scénario.
Des motos, on parle de moto.
Si je peux glisser un Dominator dans un scénario, je le ferai, ouais. mais cela étant, mon troisième livre qui traite de l'univers des coursiers et déjà je pense plus transposable en scénario parce que le coursier on sait à peu près tous ce que c'est.
Absolument.
En tout cas on les voit passer quoi. Un piéton à Paris, il les voit passer. Il peut imaginer ce qu'il y a derrière.
En plus dans le dernier tu développes je te dis, le problème c'est que je les ai lus à l'envers donc c'est un peu le bordel, mais dans le dernier il y a vraiment en fait avant si tu veux quand je lis Roulé Jeunesse ou Danger Public je vois les personnages. Délivre-moi du mal, le personnage, et je le vois, mais en plus il me parle, tu vois. Et ça veut dire que t'es en train de développer à côté un espèce de autre chose en fait. Tu rentres plus dans son côté psychologique au personnage.
Absolument.
Donc après, tu peux facilement transvaser cette expérience que t'as là sur un autre corps de métier ou sur n'importe quoi. En tout cas, bon, délivre-moi du mal. Moi, je le colle bien entre Pouilly et puis Vargas dans ma bibliothèque, quoi. Y a pas de souci.
Rien que ça.
Bon, écoute. Ça coûte rien. J'ai de la place sur ma bibliothèque.
Juste pousser un petit peu d'un côté et de l'autre et puis.
Non, mais Pouilly, c'est. Enfin bon, tu vois, Pouilly, c'est quand même un mec. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup. Oui, ben, franchement.
Il est doué, le bougre.
Il est doué, ouais. Puis, ben, je sais pas si. Enfin, tu as dû en lire plusieurs. Il y en a un excellent qui s'appelle Spinoza en cul Engel, où le héros roule en moto. Donc la moto, elle est tout le long du bouquin. Il y a aussi la suite, donc j'ai oublié le titre. Et il roule en moto et c'est marrant parce qu'il y a un lien motard sur cette sur ce enfin c'est un
sur
lien
sur ton
motard.
Étagère c'est sûr
sur mon étagère c'est sûr ouais. Non mais tu vois bon donc après la moto elle peut toujours être là sans que ça soit le sujet principal
puisque... absolument oui si ça devait être un scénario de film, voilà, il faudrait qu'elle soit juste reléguée au second plan, qu'elle soit pas fondamentale, qu'elle soit pas structurante, et que l'intrigue se joue sur des caractères de personnages ou des événements extérieurs, mais pas sur la moto, quoi. Les deux premiers, si tu veux, étaient beaucoup trop centrés sur la moto pour intéresser le moindre producteur.
Oui, mais c'est bien, ça te permet de te faire découvrir dans un milieu qui ensuite fera boule de neige, puisque déjà le troisième commence à sortir un peu de ce milieu indirectement.
Enfin, oui, c'était de toute manière, c'était son but. Quand j'ai formalisé la trilogie, en fait, c'était les deux suivants après Danger Public, c'était clair que le troisième serait sur l'univers des coursiers, dont je savais qu'il était une porte de sortie.
Ouais.
Voilà. Et je voulais pas y traiter de culture moto comme je l'ai fait dans les deux premiers, quoi. Surtout pas. Parce que, voilà, et par ailleurs aussi sur la moto, si on faisait un quatrième, je me répéterais. Nécessairement, je me répéterais.
Qu'est-ce que c'est sage ?
Pardon ?
C'est très sage.
Oui, c'est ça. C'est comme... soit on dévoilait l'intrigue des personnages, mais parfois c'est très... On nous dit, mais pourquoi tu tues un personnage ou deux comme ça ? Et j'aime bien les tuer, parce que moi, je peux pas les réutiliser.
Et tu serais qui, alors, dans toute cette bande ? De tous tes personnages sur les trois livres. T'es plus proche duquel ?
De Christian, le personnage du troisième.
Ah ouais.
Enfin, le troisième est composé. Enfin, c'est impossible à voir par vous, mais le troisième a un vrai caractère autobiographique. Le premier et le troisième le titre s'adresse. Le titre, c'est moi, quoi.
Ouais.
Bon, Mathieu, tu parlais tout à l'heure de porte de sortie. J'espère que ce sera une porte de sortie vers un autre avenir, un avenir brillant.
Du fric.
Si ce n'est dans un premier temps avec de l'édition, du soutien à des jeunes écrivains, et ensuite qu'on te retrouve d'ici quelques temps avec à nouveau une belle plume. Ça, je l'espère.
Il reste de la place sur ma bibliothèque, en fait, les Vargas, hein, je te rassure.
Il en reste aussi pas mal sur la mienne. Par contre, dans mon émission, il reste malheureusement maintenant peu de temps. C'est très dommage. J'espère qu'un jour, on te verra passer comme ça, par là, par Toulouse. Pourquoi pas à l'occasion de la promotion de ce dernier sur un salon ou dans une des librairies de Toulouse.
J'achète mon collègue demain et j'arrive.
D'accord. Et donc tu sais que tu y seras bien entendu le bienvenu dans cette émission. Et surtout, même ceux qui ne sont pas motards et qui nous écoutent, n'hésitez pas. Vraiment, ce troisième ouvrage est passionnant dans le style. Délivre-moi du mal de Mathieu Gogel. Il faut l'acheter, il faut le lire. Si vous aimez le style policier, c'est vraiment fabuleux. Voilà, je te remercie beaucoup, Mathieu. Je te dis à très bientôt.
Bonne soirée.
Et bonne soirée à toi.
Au revoir.
Ciao.
Ciao.